Les appeler thaumaturge africaine, je ne vais pas dire des sorciers, donner comme consigne que si on rencontre une bête sauvage, il ne faut jamais avoir peur. Parce que la peur secrète des odeurs que l'animal perçoit, et c'est très agressif, et surtout dans les yeux. Alors c'est ça, je peux rattacher ça à cela, l'explication des martyrs chez les chrétiens, dans les jeux romains, les animaux sauvages avaient peur. Toutes ces légendes, c'est pas des légendes qu'on raconte, que les animaux sauvages s'agenouillaient devant une scène d'une telle, une scène d'une telle. C'est plus que vraisemblable. Bon, je referme la parenthèse, il me semble que quelqu'un voulait parler. Ken ?
Il y a une histoire fascinante, Ken Bodel, d'un homme qui est sur le point de mourir, arrivant de Saint-Dié, qui fait des prières pour lui, et il reçoit un message que s'il insiste, il peut le sauver, mais à condition de perdre son ramaba. Et tout de suite, il répond, avec grand plaisir, comme ça, je vais pouvoir te servir sans...
Sans la fin.
Est-ce que c'est immoral, ça ?
Non, attends, tu cites le Midrash sans la fin. Et la fin, c'est que Dieu dit au tzaddik, puisque c'est comme ça, je te le rends. Il faut aller jusqu'au bout de la vertu. C'est soucia. C'est soucia. Je vais vous raconter le Midrash. C'est bien soucia. Soucia prier pour les malades. Et un jour, une mère de famille lui demande de prier pour sa fille. Et alors, soucia se met en prière, pas de réponse. Il insiste, se met en prière, pas de réponse. Finalement, Dieu lui répond, Soucia, j'ai des raisons de ne pas guérir cet enfant. Alors laisse-moi tranquille, parce que tes prières, c'est des vraies prières, tu me gênes. Le problème. Et Soucia qui insiste. Alors Dieu dit à Soucia, bon, je vais la guérir, mais je t'enlève ton monde à venir. Mais Soucia dit donc, enfin, jusqu'à présent, j'avais peur de servir en vue du monde à venir. Maintenant, je sais que je ne l'ai pas, je peux te servir gratuitement. Et Dieu lui répond, puisque c'est comme ça, ton monde à venir, je te le rends bouclé. Oui, voilà, pas le problème. Alors, rassurez-vous, on a rendez-vous au Olam là-bas. Bien. Ça ne veut pas dire qu'on va se rencontrer. Hein. Les chassidites sont toujours impatients de savoir en compagnie de qui ils vont se retrouver. Ça s'appelle la méritza de qui ? Une méritza toche et demie. La réponse est : et la méritza de la synagogue, comment elle était ? C'est la méritza. Bien. Que je respire. Assure. Voilà donc ce qu'on va lire dans le texte. C'était ma remarque de grammaire. Rentre. Pourquoi tu es là-bas, exilé ? Tiens une place là. Voilà. Alors tout se passe comme Dieu dit à Moïse. Parle aux enfants d'Israël et que le résultat soit qu'ils m'apportent une offrande. Et ça veut dire, débrouille-toi avec ton génie pédagogique. Le problème, c'est pour toi. Tu vas faire en sorte que d'eux-mêmes, ils apportent une offrande. Et il n'y a pas de recette, on n'oublie pas la recette. Mais c'est ça, Moïse. Moïse est celui qui a été capable de faire que la loi hétéronome devienne autonome. Alors, ma formule est très simple, je pense que... Et c'est le génie du pédagogue. Moïse doit s'effacer entre la loi et Israël. Et le signe que Moïse a réussi, c'est quand on ne parle plus de lui. La preuve, c'est que... Vous connaissez ça, c'est Torah de Moshe. Et bien quand on dit Stam Torah, on sait que c'est Moshe Rabbein. On dit Stam Torah. Comme pour la Mishnah, Stam Mishnah, Rabbi Meir. Tout le monde sait quel est le génie qu'il y a derrière, mais sa grandeur ou sa réussite, c'est de s'effacer entre Dieu et l'homme. Et alors, le contenu de ce génie pédagogique est très précis. C'est le sens du mot hinour en hébreu, qui a deux sens. Et hanech, éduquer, et hanouka, inaugurer. Le Rav Kook nous a enseigné quel est le lien de ces deux sens. Il faut, vous allez me donner un livre de Bemidbar, il faut éduquer un enfant jusqu'à sa bar mitzvah, et qu'à sa bar mitzvah, il puisse être autonome. Et donc, en principe, se passer du mechaner. À partir de l'âge de la bar mitzvah, le mechaner, ça devient le dayan, celui qui dit quel est le din. Mais jusqu'à la bar mitzvah, le dayan est mechaner. Et alors, on lui fait Hanouka d'Abeit. On l'inaugure comme être autonome. La réussite de l'éducation dépend de l'éducateur. Sur ce point, c'est qu'un éducateur, c'est ne pas être médiateur. Pour ceux qui ont connu les problèmes de l'éducation, surtout au moment de jeunesse, il faut faire attention au phénomène qu'on appelait dans les moments de jeunesse la flamme. Qui était le moment de jeunesse? Tu te rappelles de quoi il s'agit, hein? Surtout à Moussac. Quand Satan nous disait « Je t'aime », tu te rappelles de ça? Oui, on avait peur. Eh bien, quand l'éduqué fait une flamme, a une flamme, je ne sais plus comment on dit, pour l'éducateur ou l'éducatrice, alors si c'est cachère, c'est très grand, c'est très beau, mais si c'est pas cachère, c'est l'échec de l'éducation. Et méfiez-vous des éducateurs qui imposent à l'éduqué des relations personnelles, de quelque ordre que ce soit, fût-ce un clin d'œil. D'ailleurs, c'est interdit par la loi et par l'éthique professionnelle, je suppose. Et c'est la catastrophe. Alors, vous voyez, le cas particulier de Moïse, c'est que dans toutes les religions, il a été le seul à ne pas être divinisé. D'ailleurs, la faute serait de diviniser Moïse. On a capoté avec la Eleva à Ovodor. On a voulu diviniser Moïse, on verra ça dans Kétissa. Dans 15 jours. Mais la différence avec le christianisme, c'est le ciel et la terre, le jour et la nuit. Au contraire, le christianisme va ériger le maître comme médiateur. J'ai dit souvent à mes collègues chrétiens, la figure que vous adorez cache le Dieu d'Israël. Alors vous prétendez qu'elle le dévoile, elle le cache. Et ils sont en train de réfléchir à ça d'ailleurs, mais ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est un problème très difficile, par quoi remplacer leur idole. Et alors, très souvent, j'ai des postulants à la conversion, qui en général sont des chrétiens très fervents. Il y en a un que j'ai reconverti parce qu'il est d'origine juive, et je regrette. Il aurait été plus heureux chrétien, c'est un problème, toujours compliqué. Mais beaucoup d'entre eux, je refuse et je les envoie chez le Père Dubois pour qu'il en fasse de bons chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont des tempéraments goy qui ne peuvent pas se passer du médiateur. Je ne sais pas si c'est clair. Quoique, de toute façon, ces dernières années, j'ai quand même des adresses où les envoyer, je les envoie chez les chassidim. Et là, ça s'arrange. Non, ne croyez pas que c'est méchant, c'est au contraire admiratif. Comment ils font? Ok. C'est clair. Un jour, j'ai écrit un cas de ce genre, il y a très très longtemps, quelqu'un qui avait été pris par les dominicains juifs. Et j'avais dit, on va voir, peut-être ça serait bien qu'on l'envoie chez les chassidimani, jamais de l'œil. Voilà, je vous ai tout dit. Alors on revient au sujet. Vous voyez, Daber et Béni Israël, Veikroulit Romaré, allez comme c'est Pshat. Parle aux enfants d'Israël, c'est moi qui ajoute entre parenthèses, débrouille-toi. Si tu réussis pas, c'est que tu n'es pas Moïse. Mais ce que je veux, c'est que le résultat soit qu'il me mène. Une trauma. Et que c'est une trauma, mais colli chachéré de bon niveau. Ça veut dire, une offrande est une offrande, que si elle est apportée par le cœur porte à être généreux. S'il y a une autre motivation que le cœur, la générosité du cœur, c'est pas caché. C'est là qu'on se sépare de Kant. Enfin, que Kant se sépare de la Bible. Parce que pour Kant, Dafka, la motivation la plus insidieuse, c'est cette générosité du cœur. Si c'est sentimentalement que je sers le devoir, eh bien, c'est impur. Il faut servir le devoir parce que c'est le devoir. Si une mère aime son fils parce que c'est son fils, eh bien, c'est pas un amour authentique. Ça, c'est Kant. Méfiez-vous de ça. Il faut aimer son fils parce que c'est un devoir d'aimer son fils. Mais réfléchissez bien à ça, ça nous est étranger. Alors, c'est pour ça que je voulais vous mettre en garde contre un kantisme superficiel qui est très séducteur chez les juifs. Et je connais énormément de juifs qui font des thèses sur Kant. Et chaque fois que j'ai un étudiant qui m'en approche, qui m'en propose une, je prends le temps qu'il faut pour le convertir au judaïsme. Si c'est un juif, d'ailleurs. Eh bien, et c'est pas difficile, parce que on prend pas un mathématicien en défaut d'addition. Alors là, il y a un défaut d'addition chez Kant. Et d'où ça vient? Il faut psychanalyser tout ça. Enfin, analyser. D'où ça vient? Mais c'est que Kant est un Prussien. C'est que Kant est un quiétiste. Le protestantisme le plus satmar. Il faut savoir quel est son regard, quel est son background d'éducation religieuse. Et ça, c'est très protestant. Les protestants sont toujours très gênés lorsqu'un sentiment vient se mêler à l'accomplissement d'un devoir. Et alors surtout quand il s'agit des Allemands, surtout quand il s'agit des Prussiens. Je me rappelle de Yankelevitch, qui est un grand philosophe contemporain. Vous avez connu Yankelevitch, qui disait, on ne peut pas sentir les Allemands, surtout après la Shoah. Il disait, les Allemands, surtout les Prussiens, ont une baïonnette à la place de la colonne vertébrale. C'était sa définition de la culture allemande. Tandis que les Français, ça pétille comme le champagne. Je me rappelle comme il disait ça. Et je me rappelle qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie, on va détendre un peu l'atmosphère. Il n'est pas si tendu, d'ailleurs. Et figurez-vous que j'ai failli ne jamais avoir le baccalauréat. Parce que chaque fois, c'était Shabbat. Alors j'ai redoublé la terminale.
Ah non, vous avez
dû
le passer
au
Maroc.
Je raconte. Je parlais de l'Algérie. Et alors, donc j'ai redoublé la terminale, prix d'excellence, il fallait le faire, mais c'était facile. Et puis une troisième année de terminale, c'était encore ça. Et puis par miracle, dans la semaine, dans le journal, mon père voit qu'au Maroc, c'était pas Shabbat. Mais c'était le lundi suivant. Et on était vendredi matin. Alors il descend chez le préfet et obtient, je sais pas comment il a fait, que mon dossier soit transféré au Maroc. Et c'est pour ça que j'ai passé l'écrit à Oujdar et l'oral à Rabat. Et j'ai passé le Shabbat qui avait entre l'écrit et l'oral chez le Rab Berdugo, Zichron Alibracha, de Meknes. C'est la première fois que je découvre ce monde juif de cette époque. Un monde juif extraordinaire, surtout à Meknes. On entendait les jeunes gens flirter en hébreu dans la rue. Non, non, je blague pas. Et alors, à l'oral, on était interrogé par des professeurs de Montpellier. Et puis, les professeurs de Montpellier savaient, enfin, faisaient comme s'ils savaient que nous étions des sous-développés, bien entendu. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme question en géographie? Décrivez-moi une bouteille de champagne. Une bouteille de champagne en géographie. Vous voyez, je parle de Reims. Et décrivez-moi une étiquette de bouteille de champagne. Le regard, j'ai dit, bon, comment je vais m'en sortir? J'ai jamais vu, moi, une bouteille de champagne. Alors, je lui ai expliqué ça. J'ai dit, vous savez, chez nous, le champagne, c'est pas caché. Alors, elle me demande, mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est un cachère? Il y a une longue conversation qui s'est fini par 20 sur 20 à l'oreille. Ça, c'est l'histoire de Champagne. Et c'est vrai, j'avais jamais vu de ma vie une bouteille de champagne à l'époque. Bien. Alors, je voudrais vous donner deux textes qui se rattachent à ça. Mais en vous demandant vraiment de m'excuser pour cette douce incohérence. Voilà. Entre-temps, je demande de noter. Ça va s'arranger. De noter la note de Rachid sur Veikrouli Trouma. Rachid va résumer ici énormément de sources que nous avons dans le Midrash. Rachid explique Ni Lishmi, en mon nom. Et alors, c'est un de ces Rachid qui semble tellement simple. Je peux se demander ce qu'il a voulu dire. Et l'explication habituelle, c'est de dire j'ai pas besoin de ce que vous m'apportez. Mais par conséquent, ce lit ne doit pas être compris, pshat. C'est pas pour moi que vous allez apporter une trouma. Le monde entier, toutes ses valeurs m'appartiennent. Donc c'est en mon nom. Et ce que je voudrais ajouter, d'après notre étude, et faites attention, c'est pas celui qui a transmis le commandement qu'il s'agit d'intentionner la mitzvah. Surtout pas à Moïse. Vous vous rappelez de ça? Faites bien attention. L'Élishmi. Alors, si vous voulez, je vais approfondir un peu. Ça, c'est une note des kabbalistes. Si, li, ça veut dire l'Élishmi. L'Élishmi, ça veut dire les shem shemi. Vous avez découvert ça? Li, c'est l'Élishmi. Alors, l'Élishmi, c'est l'Hashem Shemi. Ben, vous avez bien compris, en hébreu. L'Hashem Shemi. Mais, au nom de mon nom. Donc, il y a une réalité qui s'appelle le nom de Dieu. Et il ne faut pas que Moïse prenne sa place. Ça y est, c'est clair? C'est simple comme définition. Et le Kabbaliste explique que le nom de quelqu'un, c'est, surtout lorsqu'on parle de Dieu, mais c'est vrai pour toutes les personnes humaines elles-mêmes. Qu'est-ce qu'on connaît de quelqu'un lorsqu'on connaît son nom? Très souvent, vous avez cette expression, « Vani, Vanochi, Yedartiha Beshem » Je te ferai, je me ferai connaître de toi par mon nom, ou je te connaîtrai par ton nom. On est tellement familier à ces expressions bibliques qu'on ne se rend pas compte qu'il faut les comprendre. Quand je connais quelqu'un par un nom, qu'est-ce que je connais? Si je connais quelqu'un par son visage, alors quand on me le cite, on me parle de lui, je vois son visage, sa beauté, sa grâce, sa silhouette. Mais connaître quelqu'un, alors j'ai une image visuelle, connaître quelqu'un par son nom, à quoi ça fait allusion? Mais la Kabbalah répond quelque chose de très profond, sa manière de vouloir ce qu'il a l'habitude de vouloir. Et je vous donne la solution, c'est clair l'idée? Je le connais vraiment, je sais quel est son style de volonté. Il y a une équivalence pour la Kabbalah entre Shmo, son nom, Shin Memvav, et Ratson, c'est la même gamatria. C'est enseigné à propos du principe Hu ou Shmo Echad. Lui et son nom sont un. Prenons les initiales des trois mots Hu, He, ou Shmo Vav, Echad, Aleph. Quel mot apparaît? Hu. Hu, c'est Hu ou Shmo Echad. Alors, où, lui, je ne peux pas connaître. Mais ce que je peux connaître, c'est ce qu'il a révélé de sa volonté. Alors, on revient à Rachid. Ça veut dire, c'est pour sa volonté à lui que j'apporte la trouma. Dis-moi. Oubliez tous les détails, mais gardez l'idée. Parce que dans les rapports entre personnes, honorer quelqu'un, c'est vouloir soi-même comme l'autre veut. Pas acquiescer, accepter passivement, bichticaloremet, comme on dit ça en français, en fronçant les sourcils, surtout dans les rapports entre hommes et femmes. C'est comme ça que tu feras ça. Bon, d'accord. Mais à la fin, il y a une nuance. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est vouloir ce que l'autre veut. Les mots ayant un sens simple. Okay? Vouloir ce que l'autre veut. Pas je veux bien. Et une fois de plus, chaque fois, vous connaissez les querelles de famille. Okay? Jusqu'à quand? Tu fais encore comme ta mère. Et ça va très loin parce que je cite des Mishnah du Pirkei Avot, vous verrez comment ça s'organise. Yehi kevod havelcha haviv alecha keshelcha keshelach. Que le kavod de ton haver te soit aussi cher que le tien. Et que c'est le kavod de quelqu'un, c'est son ratson. Ratsono chez la dame kevodo. Comment on honore quelqu'un en admettant que c'est sa manière de vouloir qui passe avant. C'est ça faire kavod à quelqu'un. Et alors, c'est très clair. Et vous avez d'ailleurs le lien de toutes ces catégories-là dans la phrase Baruch Shem Kevod Malchuto Be'olam. Alors, pensez ça en hébreu. Oui, en hébreu, vous avez une consigne pédagogique tellement profonde. Okay? Et donc c'est ça, l'ishmi, parce que c'est moi qui l'ai demandé, c'est pour moi, pas pour moi, j'en ai pas besoin, mais pour ma volonté, pour honorer ma volonté. Telle est la phrase de la prière de Seigneur Père, au moment de la sortie d'Égypte, ni dans la prière du matin, ou malchuto, kiblou, aleem, beratzon. Ça veut dire accepter la souveraineté de quelqu'un, beratzon. C'est pas avec bonne volonté, c'est en voulant ce qu'il veut. Et on est en plein dans notre problème. Bon, la première notion que j'espère avoir un peu élucidée, je m'excuse de parler lentement, je crois que c'est ça qu'il faut faire, eh bien, c'est que le génie de Moïse, c'est que précisément Dieu s'adresse à lui en disant parle aux enfants d'Israël. Qu'est-ce que je vais leur dire? Eh bien, si tu sais pas ce que tu dois leur dire, c'est que tu n'es pas Moïse. Alors débrouille-toi. Okay? C'est clair, je pense que c'est important de comprendre ça. Eh bien, tu leur parles et que le résultat soit que ils chroniquent comme un. Alors voilà la tâche énorme de Moïse. Arriver à faire que la Torah, qui est révélée de façon transcendante au Sinaï, au point que le Midrash va dire Dieu a renversé la montagne sur eux, contrainte absolue, okay? Il n'y a pas plus hétéronomie que ça, que Israël la veuille de lui-même. Tant qu'on n'est pas arrivé à ce stade où je veux ce que la Torah veut, on n'est pas arrivé à la vertu. Ça ne veut pas dire qu'obéir, contraint, forcé, parce que je ne peux pas faire autrement de savoir que la Torah c'est vrai, d'abord ma mère elle m'a dit, et puis etc. etc. Eh bien, ça a une valeur, mais c'est encore provisoire, c'est encore des échelons inférieurs. Ce n'est que quand on arrive à vouloir par soi-même ce que la Torah veut, et c'est un niveau de vertu qui est au-delà du tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui fait ce que la Torah veut. C'est le chassid. Le chassid veut ce que la Torah veut, alors que le tzaddik se définit comme étant celui qui fait ce que la Torah veut. Mais qu'est-ce qui se passe en lui? Le tzaddik. Maïmonide a expliqué dans le Shemot HaPrakim, il y a deux sortes de tzaddik. Il y a ceux qui font, mais ils sont malheureux de le faire. Mais ça s'appelle tzaddik verarlo, liot tzaddik. Ils sont malheureux de le faire. Mais il faut bien le faire, puis c'est la vérité, puisque c'est le conflit avec les instincts. Ils sont malheureux à cause du yetzerara. Il y a dans la Gemara quelque chose de très frappant pour définir ça. Oilimi yotzri. Oilimi yitzri, c'est-à-dire malheur à moi du côté de mon instinct, si j'obéis à mon créateur, et malheur à moi du côté de mon créateur, si j'obéis à mon instinct. Alors c'est la tragédie absolue, là, pas du tout. Parce qu'il faut se rappeler que c'est mon créateur qui m'a donné mon instinct. Donc ça s'arrange quelque part. Je ne sais pas si c'est clair ce que je disais. Il y a les dualistes qui sont vraiment tragiques, les Grecs. Le monde vient d'un absolu et Dieu de l'autre. Alors bien sûr, ce que demande Dieu, eh bien, le monde demande le contraire. Mais parce qu'on est en dualisme, il n'y a pas d'issue. Si on est en monothéisme, bien sûr qu'il y a une issue. Va étudier comment ça s'arrange. Le Yetzer et le Yotzer. Vous avez compris le problème. Ça y est, j'ai oublié. Parce que je parlais à, pas à toi. Hein. Allez, qu'est-ce que je disais juste avant? Le Yetzer et le Yotzer. D'accord? Oui. Bon, c'est le problème du conflit entre l'instinct et le devoir. Bon, ça me reviendra. Mais qu'est-ce que je dis?
C'est pas ce qui distingue les Bnei Israël des patriarches, des avots, des Metsubevo aussi, du
Chéino Metsubevo aussi. D'accord. Je ne vais pas rentrer dans ce problème. Mais effectivement, c'est ce problème en plein. Hein. Je regarde quelqu'un en lui parlant vous amener sur une autre montagne. Chaque fois que vous jouez à ça. Et. Alors où j'étais là, avec les patriarches, oui. Mais ce problème, il faudrait trop de temps. Les Avot ont vécu la Torah sous forme de Mida, alors que les Bnei Israël la vivent sous forme de Mitzvah. J'explique pas, hein. Mais tu as raison, quand on est au niveau du Chassid, on est au niveau des Avot. Bien. Alors, qu'est-ce que tu veux demander?
À propos de Shmi, qui est aussi l'homme de Rassot et d'Avot. Pourquoi est-ce que. Alors, quel est le sens du verset? Pourquoi c'est
aussi. Ben, je vais m'arrêter à ce verset. Et c'est dommage, j'ai oublié de vous donner deux éclairages dans deux autres textes, mais je vois que c'est l'heure. Mais en tout cas, l'essentiel a été dit sur l'importance de Moïse, la forme dont c'est formulé ici. Répète ta question.
Pourquoi est-ce que Bayom Ahou Yashem Echad ou Shmoechad?
Très bien. Voilà. Ce verset, on l'a étudié une fois. Tu n'étais pas là. En ce jour-là, Bayom Ahou, Yashem Echad, comme c'est déjà le cas. Hashem est Echad dans son être pour le monde entier. Ou Shmo Echad, et son nom sera un, ce qui n'est pas encore le cas. Parce que chaque peuple l'invoque avec un nom différent, c'est-à-dire fait apparaître un visage différent. Et il arrivera donc un jour où non seulement il y a Hashem Echad comme c'est déjà le cas, mais où Shmo Echad comme c'est pas encore le cas. Et la Kabbalah va plus loin, bien sûr. C'est son nom sera le mot Echad. Ushmo Echad, son nom sera le mot Echad. Et si vous voyez comment c'est écrit dans le Sefer Torah, le premier verset du Kriyat Shema, Shema, il y a un grand Haïm, et Echad, il y a un grand Dalet. Une des explications, c'est que actuellement, on se trouve dans un stade où il y a 70 noms de Dieu. Il arrivera à un stade où il n'y aura que le nom des quatre lettres. Et c'est le témoignage qu'Israël doit porter, le Haïn et le Dalet, faisant le mot Haïd, témoin. Mais je voulais terminer par un verset, mais je l'ai oublié, par un verset pour achever cela. Ça fait rien, je reprends un autre à propos de la capacité de Moshe. Moshe est appelé, on reviendra sur sa notion, Isha Elohim. Il est capable par lui-même d'arriver à ce niveau-là, en tant que Ish, au niveau Elohim. Alors ce que je vais vous dire maintenant, faites bien attention. Et le Midrash Rabbah dit, pour expliquer l'expression Ish à Elohim, il dit. Chetio ulmata ish, chetio ulmala Elohim. Sa moitié inférieure homme, sa moitié supérieure Dieu. Alors c'est l'homme Dieu. Oui, pourquoi c'est difficile. Hein? Je répète, comme on lit le Midrash habituellement, Chetio, Ulmata, Ish, Chetio, Ulmala, Elohim. Bon, ça me rappelle quand les chassidim mettent le... Comment vous appelez ?
Gartel.
Oui, le... le... c'est mieux, ça s'appelle Gartel. Et alors... alors, voilà comment il faut dire. Chetio, Ulmata, Adam, Ish. Chetio, Ulmala, Elohim. C'est-à-dire, sa moitié inférieure est plus bas que sa moitié inférieure, les hommes. Sa moitié supérieure est plus haut que sa moitié supérieure, Dieu. Il est entre Dieu et l'homme. C'est pas qu'il y a un Dieu. Vous avez compris la différence ? Mettez une virgule. Chetio, virgule, Ulmata, Ish. Chetio, Ulmala, Elohim. C'est la définition du prophète par excellence. J'ai noté une chose avant d'oublier, c'est ça qui m'est revenu.
L'important, c'est l'unité.
Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Qu'est-ce que vous disiez ?
L'important, c'est l'unité.
L'unité entre ?
Du point de vue philosophique et théologique.
L'unité entre quoi et quoi ?
De philosophique et théologique.
Oui.
L'important, c'est l'unité.
Ah, dans les deux cas, oui. Il est capable de faire le lien. Mais, voilà, c'est Judas Lévi qui explique. Dans les niveaux de l'être, précisément, il y a l'inerte, le domaine, le tzoméach, le végétal, le chai, le vivant, biologiquement vivant, le chai amdaber, et plus haut que le chai amdaber, le vivant parlant, qui est l'homme, le navi, et plus haut, il y a Dieu. Alors lui, il est le navi par excellence. Il est entre Dieu et les hommes. C'est ça que ça veut dire, Isha Elohim. Il est le porte-parole de Dieu pour les hommes. Mais il est capable d'entendre Dieu et de parler aux hommes. C'est ça sa force. Après Moïse, et après les prophètes en général, eh bien les hommes parlent, mais ils entendent rien. Celui qui dit qu'il entend. Et, vous savez, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant « ben j'ai entendu ». Alors, il faut faire ça avec beaucoup d'adresses. Et j'ai toujours des adresses. Vous les envoyez. En général, ça s'arrange. Mais je voulais dire à propos de l'Ilishmi et la place du Shem représentant le Ratzon de celui qui révèle la Torah, c'est que les lettres du mot Moshe, inversées, c'est Hashem, le nom. C'est-à-dire que Moshe est le véhicule où le nom peut se révéler. Bon, on va s'arrêter là. Alors, Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.